Mai, les enfants rachitiques. Vendredi 5. Aujourd'hui, j'ai eu congé parce que j'étais un peu souffrant et maman m'a conduit avec elle à l'institution des enfants rachitiques où elle allait recommander la fillette de notre portier. Mais elle n'a pas voulu me laisser entrer dans l'établissement. Tu n'as pas compris, mon Henri, pourquoi je ne t'ai pas laissé entrer ? C'était pour ne point montrer à ces malheureux un enfant sain et robuste comme toi. Ils ont déjà trop d'occasions de faire de douloureuses comparaisons. Quelle triste chose ! Il me monta aux yeux des larmes amères en entrant là. Figure-toi une soixantaine de garçons et filles, pauvres petits corps contrefaits, petits membres tordus et délicats. Leurs visages, cependant, étaient gracieux, leurs yeux pleins d'intelligence et de bonté. Il y avait, entre autres, une petite figure d'enfant, le nez aigu et le menton avançant, qui ressemblait à une vieille, et son sourire, pourtant, avait une suavité céleste. Certains enfants, vus de face, sont beaux et paraissent sans défaut, mais lorsqu'ils se tournent, le cœur se serre à les voir. Et penser qu'ils sont maintenant à la période la meilleure de leur maladie, qu'ils ne souffrent presque plus. Mais qui peut dire ce qu'ils ont souffert durant la déformation de leur corps quand leurs infirmités, en croissant, diminuaient l'affection autour d'eux ? Pauvres enfants, laissés seuls pendant des heures dans le coin d'une chambre ou d'une cour, mal nourris et quelquefois injuriés ou bien tourmentés par des bandages et des appareils inutiles. Maintenant, cependant, grâce aux soins, à la bonne alimentation et à la gymnastique, beaucoup d'enfants ont une meilleure santé. La maîtresse leur fit faire de la gymnastique devant moi, et c'était pitié à certains commandements de voir s'étirer sous les bandes toutes ces jambes bandées et contrefaites, des jambes que l'on aurait couvertes de baisers. Quelques-uns ne pouvaient point se lever et rester là, la tête appuyée sur un bras, caressant de la main leur béquille. D'autres, en faisant l'extension des bras, perdaient la respiration et retombaient assis, pâles, mais souriant pour dissimuler leur mal. « Ah, mon Henri, vous autres enfants bien portants, vous n'appréciez pas la santé et cela vous semble peu de chose que de vous bien porter. » Je pensais à ces beaux enfants que les mères promènent dans leurs bras en triomphe, fiers de leur santé florissante, et reportant mes regards sur les pauvres rachitiques, je me disais que si j'étais seule, je resterais à les soigner, je leur consacrerais ma vie entière. Et ils chantaient, les infortunés, ils chantaient avec des voix douces et faibles qui allaient au cœur. Les maîtresses leur ayant fait des compliments, les pauvres petits se montrèrent contents et ils baisaient les mains de leur institutrice lorsqu'elle passait entre les bancs, car ils sont très reconnaissants de tout ce que l'on fait pour eux. « Et puis, ces enfants sont intelligents et étudient avec plaisir, » me dit la maîtresse. Cette institutrice, jeune et gentille, a un visage plein de bonté. Une certaine expression de tristesse, cependant, assombrit ses traits, reflet des douleurs qu'elle caresse et console. « Chère jeune fille, entre toutes les créatures qui gagnent leur vie en travaillant, il n'y en a pas une qui la gagne plus saintement qu'elle. Ta mère. » Sacrifice. Mardi 9. Ma mère est bonne et ma sœur Sylvia a le même cœur ouvert et généreux. J'étais occupée hier à copier une partie du récit mensuel intitulé « Des Apennins aux Andes ». Il est si long que le maître nous en a donné à chacun quelques pages, lorsque Sylvia entra sur la pointe du pied et me dit tout bas « Viens avec moi chez maman. J'ai entendu ce matin papa et maman qui parlaient. Le père avait, paraît-il, une affaire importante qui vient de se terminer très mal pour lui. Il était désespéré. Maman le consolait. Mais nous sommes ruinés. Henri, comprends-tu, nos parents n'ont plus d'argent. Or, il faut que nous fassions des sacrifices, nous aussi, n'est-ce pas ? Es-tu prêt ? Bien. Je parlerai à maman et toi tu me jures de faire ce que je te dirai ? Je le lui promis. Sylvia me prit alors par la main et me conduisit dans la chambre de maman qui cousait, toute pensive. Je m'assis près d'elle sur le sofa, Sylvia s'assit de l'autre côté et dit aussitôt « Écoute, maman, j'ai à te parler. Nous avons à te parler tous les deux. » Maman nous regarda surprise. Notre père est ruiné, n'est-ce pas ? Commença Sylvia.
Que dis-tu ? Fit maman en rougissant. Ce n'est pas vrai ? Qui te l'a dit ? Comment le sais-tu ?
Je le sais, dit Sylvia d'un accent résolu. Eh bien, écoute, maman, nous devons faire des sacrifices, nous aussi. Tu m'avais promis un éventail pour la fin du mois et Henri attendait une boîte de couleurs. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons pas qu'on dépense de l'argent pour nous. Comprends-tu ?
Maman essaya de parler, mais Sylvia continua.
Nous avons décidé cela, Henri et moi. Et tant que notre père n'aura pas d'argent, nous ne voulons plus de dessert. La soupe nous suffira et le matin nous mangerons du pain. Comme cela, on dépensera moins pour la table et nous te promettons que tu nous verras tout aussi contents. N'est-ce pas vrai, Henri ?
Je répondis affirmativement.
Et s'il y a d'autres sacrifices à faire ? Fit encore Sylvia en mettant une main sur la bouche de maman pour l'empêcher de parler. Nous les ferons volontiers, sur la toilette ou autre chose. On peut vendre aussi tout ce qu'on nous a donné en cadeau. Moi, d'abord, je donne tout ce que j'ai. Je te servirai de bonne. Nous ne donnerons plus rien à faire dehors. Je coudrai toute la journée. Je suis prête à faire tout ce que tu voudras. Tout !
S'écria-t-elle en se jetant au cou de maman.
Il suffit que père et toi ne soyez plus tourmentés, que je vous sache tous deux tranquilles, de bonne humeur, entre vos deux enfants, Sylvia et Henri, qui donneraient leur vie pour vous.
Je ne vis jamais maman plus heureuse qu'en entendant parler ainsi ma sœur. Elle nous embrassa sur le front en riant et en pleurant, sans pouvoir parler. Puis enfin, elle assura à Sylvia qu'elle avait mal compris, que nous n'étions pas ruinés comme elle l'avait cru, heureusement. Et elle nous remercia mille fois, pauvre mère. Le soir, elle fut gaie, heureuse, et raconta à papa notre démarche. Lui, il n'ouvrit pas la bouche, le pauvre père. Mais ce matin, en nous asseyant à table, nous éprouvâmes à la fois un grand plaisir et une grande surprise. Sylvia trouva son éventail sous sa serviette, et moi, ma boîte de couleurs. L'incendie. Ce matin, comme je venais de copier ma part du récit mensuel, je cherchais un sujet pour ma composition libre que le professeur nous a donné à faire, lorsque j'entendis dans l'escalier un bruit de voix inusité, et peu après, deux pompiers entrèrent dans notre appartement, demandant à mon père la permission de visiter les foyers et les poêles, parce qu'il y avait un feu de cheminée sur le toit et qu'on ne savait d'où il venait. Mon père donna la permission demandée, bien que nous n'eussions rien allumé. Les pompiers allèrent dans toutes les chambres, écoutant aux murailles, pour entendre si le feu venait des tuyaux qui passaient par notre appartement et communiquaient avec les cheminées voisines. Mon père me dit « Tiens, Henri, voici un sujet pour ta composition, les pompiers. Tu vas écrire ce que je vais te raconter. Je les ai vus à l'œuvre il y a 2 ans. Un soir que je sortais du théâtre Balbo, vers minuit, en entrant dans la rue de Rome, je vis une lueur insolite et une foule de gens qui couraient. Une maison était en feu. Des langues de feu et des nuages de fumée sortaient des fenêtres et du toit. Hommes et femmes apparaissaient au balcon et disparaissaient en jetant des cris désespérés. Devant la porte d'entrée, il y avait un grand tumulte. La foule criait « Au secours, il brûle vif !»« Les pompiers, les pompiers !» Il en arriva justement 4 en voiture, les premiers qui se fussent trouvés à la mairie, et s'élancèrent dans la maison. Ils étaient à peine entrés que l'on vit une chose horrible. Une femme parut à la fenêtre du 3e étage. En poussant de grands cris, elle enjamba la balustrade de fer et resta ainsi accrochée, presque suspendue dans le vide, le dos courbé sous les avalanches de feu et de fumée qui frôlaient sa tête. La foule poussa un cri d'épouvante. Les pompiers, arrêtés à tort au second étage par les locataires effrayés, avaient déjà abattu un mur et s'étaient précipités dans une chambre quand 100 voix les avertirent. « Au troisième ! Au troisième !» Ils volèrent à l'étage supérieur où semblait gronder l'enfer. Les poutres s'écroulaient, les corridors flambaient, la fumée s'étendait. Pour arriver dans la chambre où étaient réfugiés les locataires, il ne restait d'autre chemin que le toit. Les pompiers s'élancèrent aussitôt et, au bout d'une minute, on vit comme un fantôme noir sauter sur le toit à travers la fumée. C'était le caporal des pompiers, arrivé le premier. Mais pour se rendre sur la partie du toit qui correspondait à l'appartement incendié, il fallait passer par un chemin étroit entre une lucarne et la gouttière. Tout le reste flambait, et ce petit espace était couvert de neige et de glace, sans aucun point d'appui pour se retenir. « C'est impossible, il ne passera pas !» cria la foule en bas. Le caporal s'avança sur le bord du toit. Tous nous le regardâmes, anxieux, la respiration suspendue. Il passa. Un immense bravo monta au ciel. Le caporal reprit sa course et, arrivé au point menacé, il commença à briser à grands coups de hache les tuiles, les lattes, les solives pour s'ouvrir un trou et descendre au troisième. Pendant ce temps, la femme restait suspendue hors de la fenêtre, le feu rasait sa tête, une minute encore, et elle allait être précipitée dans le vide. Le trou fut ouvert. On vit le pompier enlever sa ceinture et s'en servir pour descendre, les autres pompiers qui l'avaient suivi le rejoignirent. En ce moment, arriva une grande échelle de sauvetage que l'on appuya entre la corniche de la maison, au-dessous des fenêtres, d'où sortaient des flammes et des cris furieux. On croyait que ce secours venait trop tard, que les malheureux étaient brûlés vifs. « Les pompiers brûlent. C'est fini. Ils sont morts, disait-on. » Tout à coup, on vit apparaître à la fenêtre où se trouvait le balcon, la figure noire du caporal, illuminée par les flammes. La femme s'accrocha à son cou, il la prit par la taille et la tira dans la chambre. La foule jeta un cri qui couvrit pour une minute le fracas de l'incendie. « Mais les autres ?» Et descendre. L'échelle appuyée à une haute fenêtre était éloignée de la corniche. Comment pouvait-on l'atteindre? Pendant qu'on se disait cela, un des pompiers apparut à une des fenêtres, mit un pied sur la corniche et un autre sur l'échelle, et, debout ainsi entre la maison et l'échelle, il prit un à un les locataires que les autres lui tendaient du dedans et les remit à d'autres pompiers qui montaient de la rue sur l'échelle et descendaient ensuite, chacun avec son précieux fardeau. On vit passer d'abord la femme qui s'était suspendue au balcon, puis une petite fille, une autre dame, un vieillard. Tous étaient saufs. Après le vieillard, les pompiers restés dans la maison descendirent. Le dernier à descendre fut le caporal qui avait été le premier à accourir. La foule les accueillit tous par des explosions de bravo. Mais quand parut le dernier, l'avant-garde des sauveurs, celui qui avait affronté l'abîme pour montrer l'exemple aux camarades, celui qui serait mort si l'un d'eux avait dû mourir, la foule le salua comme un triomphateur, criant et tendant les bras dans un élan d'admiration et de gratitude. En peu d'instants, son nom obscur, Giuseppe Robino, courut de bouche en bouche. Voilà ce qui s'appelle du courage, Henri. Le courage du cœur qui ne résonne pas, qui ne fléchit pas, qui va droit où il entend un appel désespéré. Je te conduirai un jour voir les exercices des pompiers et je te ferai voir le caporal Robino. Tu seras très content de le connaître, n'est-ce pas ? Je répondis que oui. « Le voici, » dit mon père. Je me tournai en sursaut. Les deux pompiers, leur besogne terminée, traversaient la chambre pour sortir. Mon père m'indiqua le plus petit qui portait des galons d'or et me dit « Serre la main au caporal Robino. » Le caporal s'arrêta, me tendit la main en souriant. Je la lui serrai. Il salua et sortit. « Rappelle-toi, dit mon père, que sur des milliers de mains que tu serreras dans ta vie, il n'y en aura peut-être pas 10 qui vaudront celles de ce brave pompier. » Des Apennins aux Andes. Récit mensuel. Il y a quelques années, un garçon génois de 13 ans, fils d'un ouvrier, s'en alla de jeune en Amérique, seul, pour chercher sa mère. Sa mère était partie 2 années auparavant pour Buenos Aires, capitale de la République argentine, afin de se placer dans une maison riche et gagner ainsi, en peu de temps, de quoi relever sa famille, tombée par suite de différents malheurs dans la pauvreté. Elles ne sont pas rares, les femmes courageuses et qui font ainsi un long voyage pour atteindre le même but, et qui, grâce aux gages élevés que l'on donne là-bas aux gens de service, reviennent ensuite dans leur pays avec quelques milliers de francs. La pauvre mère avait pleuré des larmes de sang en se séparant de ses fils, dont l'un était âgé de 18 ans et l'autre de 11. mais elle était partie avec courage et pleine d'espérance. Le voyage avait été heureux. À peine arrivée à Buenos Aires, elle avait trouvé de suite, par l'entremise d'un cousin de son mari, boutiquier génois établi dans la ville depuis longtemps, une place bien rémunérée dans une excellente famille argentine qui la traitait avec beaucoup d'égard. Pendant quelque temps, elle avait correspondu régulièrement avec les siens. Ainsi qu'il avait été convenu entre eux, le mari adressait ses lettres à son cousin qui les faisait parvenir à la femme et celle-ci remettait ses réponses au boutiquier qui les envoyait à Gênes après y avoir ajouté quelques lignes de sa main. Gagnant 80 francs par mois et ne dépensant rien pour elle, la génoise envoyait chaque 3 mois une belle somme avec laquelle le mari, qui était très honnête, payait peu à peu les dettes contractées et rétablissait sa bonne réputation. Il travaillait, lui aussi, content de son sort, espérant surtout que sa femme ne tarderait pas à revenir, car la maison paraissait vide sans elle. Le fils cadet, qui adorait sa mère, s'en attristait de plus en plus et ne pouvait se résigner à l'attente. Une année après son départ, on reçut une lettre brève où la génoise disait être assez souffrante, puis on ne reçut plus de ses nouvelles. On écrivit une fois au cousin. Le cousin ne répondit pas. On écrivit à la famille argentine où la femme était en service, mais la lettre n'était peut-être pas arrivée parce que le nom avait été estropié sur l'adresse. On n'eut pas de réponse. Craignant un malheur, on écrivit au consul d'Italie à Buenos Aires pour qu'il voulût bien faire des recherches. 3 mois après, le consul fit répondre que, malgré les avis publiés dans les journaux, personne ne s'était présenté, même pour donner quelques renseignements. Et ceci pour une bonne raison, c'est que la génoise n'avait pas donné son véritable nom à la famille argentine où elle s'était placée, sans doute pour sauver le décorum des siens, qu'elle croyait abaissée en faisant le métier de domestique. 4 mois passèrent encore sans nouvelles. Père et fils étaient consternés et le plus petit, accablé par une mélancolie qu'il ne pouvait vaincre. Que faire? À quoi recourir? La première pensée du père avait été de partir, d'aller en Amérique chercher sa femme. Mais son travail? Qui aurait soutenu ses fils? Le fils aîné, lui aussi, ne pouvait partir, car il commençait à peine à gagner quelque chose et il était nécessaire à la famille. Au milieu de cette angoisse qui les oppressait tous les trois, les pauvres gens passaient une bien triste existence. Un soir, Marco, le plus petit, dit résolument « J'irai, moi, en Amérique, chercher maman. » Le père baissa la tête et ne répondit pas. C'était, de la part de l'enfant, une pensée généreuse, mais d'exécution impossible. À 13 ans, faire seul le voyage d'Amérique qui demande 1 mois de traversée. L'enfant insista patiemment. Il insista ce jour-là, le jour suivant et tous les jours, raisonnant comme un homme et aplanissant les difficultés. « D'autres y sont allés, disait-il, et plus petits que moi. Une fois que je serai sur le bâtiment, j'arriverai en Amérique comme un autre. Arrivé là, je n'ai qu'à me mettre à la recherche de la boutique du cousin. » Il y a tant d'Italiens là-bas, on m'enseignera bien l'adresse. Le cousin trouvé, je retrouve maman, et si je ne la trouve pas, j'irai chez le consul, je chercherai la famille argentine. Quoi qu'il puisse m'arriver, il y a là-bas de l'ouvrage pour tout le monde. Je trouverai du travail, au moins de quoi gagner le prix de mon retour. » Et ainsi, peu à peu, il réussit à persuader son père. Le père estimait Marco. Il savait qu'il avait beaucoup de raison et beaucoup de courage, qu'il était habitué aux privations et aux sacrifices, et que toutes ses bonnes qualités prendraient plus de force dans un cœur enflammé de ce saint d'espoir, retrouver une mère adorée. Sur ces entrefaites, il advint qu'un capitaine de navire, ami d'une de leurs connaissances, ayant entendu parler de ce trait d'amour filial, s'offrit à faire obtenir à Marco un billet de 3e classe gratis pour la République argentine. Après un peu d'hésitation, le père consentit, le voyage fut décidé. On emplit d'effet une valise, on mit dans la poche de Marco quelques écus, l'adresse du cousin, et un beau soir du mois d'avril, on l'embarqua. « Marco, mon cher fils, dit le père en lui donnant le dernier baiser, les larmes aux yeux, sur l'escalier du bateau qui allait partir. Aie du courage, tu pars avec un but généreux. Dieu t'aidera. » Pauvre Marco, il avait le cœur bien trempé, préparé aux plus rudes épreuves pendant son voyage. Cependant, quand il vit disparaître à l'horizon sa belle ville natale et se trouva en pleine mer, seul sur ce grand navire rempli de paysans et migrants, ne connaissant personne, n'ayant que sa petite valise qui renfermait toute sa fortune, un découragement subit l'assaillit. Pendant 2 jours, il resta accroupi à l'avant, sans presque manger, oppressé par le besoin de pleurer. Toutes sortes de pensées tristes lui passaient par la tête, et la plus terrible, la plus obstinée, était que sa mère fût morte. Dans ses rêves pénibles, il voyait toujours le visage d'un inconnu qui murmurait à son oreille « Ta mère est morte !» Il se réveillait en sursaut en jetant un cri. Pourtant, après avoir passé le détroit de Gibraltar, à l'entrée de l'océan Atlantique, Marco reprit un peu de courage et d'espoir. Mais ce fut un soulagement de peu de durée. Cette mer immense est toujours égale, la chaleur croissante, la mélancolie de tous les pauvres gens qui l'entouraient, le sentiment de sa solitude lui causèrent une rechute. Les jours se succédaient, vides et monotones, ils se confondaient dans sa mémoire comme il arrive aux malades. Il lui semblait qu'il était en mer depuis 1 an. Et chaque matin, en s'éveillant, il éprouvait un étonnement nouveau à se trouver là, seul au milieu de cet océan, voyageant vers l'Amérique. Les beaux poissons volants qui venaient de temps en temps tomber sur le bateau, les merveilleux couchers de soleil des tropiques, avec leurs énormes nuages couleur de braise et de sang, et la phosphorescence nocturne qui semblait faire de l'Atlantique une mer de lave, tout cela ne lui paraissait pas réel, c'était comme autant de prodiges vus en rêve. Il y eut aussi des jours de mauvais temps où l'on restait enfermé dans le dortoir, tandis que tout dansait et se brisait au milieu d'un cœur épouvantable d'imprécations et de cris. Il croyait alors que sa dernière heure avait sonné. Et le voyage ne finissait point. Mer et ciel, ciel et mer, aujourd'hui comme hier, hier comme demain. Encore, toujours, éternellement. Marco restait de longues heures, appuyé au bordage, regardant cette mer sans fin, étourdi, pensant vaguement à sa mère, jusqu'à ce que ses yeux, appesantis de sommeil, se fussent fermés. Il revoyait alors ce visage inconnu qu'il regardait avec une pitié réelle, lui répétant à l'oreille « Ta mère est morte !» À cette voix, Marco se réveillait en sursaut pour recommencer à rêver, les yeux ouverts sur l'horizon immuable. Le voyage dura 27 jours. Les derniers furent les meilleurs. Le temps était beau et l'air frais. L'enfant avait fait la connaissance d'un bon vieux Lombard qui allait en Amérique retrouver son fils, cultivateur, près de la ville de Rosario. Marco lui avait raconté toute son histoire et le vieux lui répétait de temps à autre en posant une main sur sa nuque. « Courage, garçon, tu trouveras ta mère bien portante et contente !» La compagnie du bon vieux réconfortait Marco, ses pressentiments tristes étaient devenus gais. Assis à l'avant, près d'un paysan qui fumait sa pipe, sous un beau ciel étoilé, au milieu d'un groupe d'émigrants qui chantaient, il se représentait son arrivée à Buenos Aires. Il se voyait dans une certaine rue, trouvait la boutique et s'élançait au-devant du cousin. « Comment va maman? Où est-elle? Allons-y tout de suite !» Ils couraient ensemble, montaient un escalier, une porte s'ouvrait. Ici, le rêve s'arrêtait, son imagination se perdait dans un sentiment de tendresse inexprimable qui lui faisait tirer une petite médaille suspendue à son cou, qu'il baisait dévotement tout en récitant sa prière. Le 27e jour après le départ de Gênes, on arriva à Buenos Aires. Une belle aurore de mai, rouge et brillante, embrasait le ciel, quand le bâtiment jeta l'ancre dans l'immense fleuve de la Plate, sur une des rives duquel s'étend la capitale de la République argentine. Ce temps splendide parut de bon augure à Marco. Il était hors de lui de joie et d'impatience. Sa mère n'était plus qu'à quelque distance. Dans quelques heures, il allait la voir, et il se trouvait en Amérique, dans le Nouveau Monde, où il avait eu la hardiesse de venir seul. Ce long et pénible voyage semblait avoir passé comme un éclair. Il lui semblait avoir volé en rêvant et de s'être réveillé au port. Marco était si heureux qu'il ne s'alarma point lorsqu'en fouillant dans ses poches, il ne trouva plus son porte-monnaie. Heureusement, il avait divisé en deux parts son petit trésor pour être plus sûr de ne pas tout perdre. On lui avait volé son porte-monnaie, il ne lui restait que quelques francs, mais que lui importait ? N'était-il pas maintenant près de sa mère ? Sa valise à la main, il descendit avec d'autres Italiens dans un petit bateau à vapeur qui les porta à peu de distance de la rive. Du bateau, il sauta dans une barque qui portait le nom d'Andrea Doria, fut débarqué au môle, serra la main de son vieil ami le Lombard et s'avança à grands pas dans la ville. Arrivé à l'entrée de la première rue, il arrêta un homme qui passait et le pria de lui indiquer quel chemin il fallait prendre pour aller rue de Los Artes. Il avait arrêté justement un ouvrier italien. Celui-ci le regarda avec curiosité et lui demanda s'il savait lire. Le garçon fit signe que oui. « Eh bien, dit l'ouvrier en lui indiquant la rue de laquelle il sortait, va droit devant toi et en lisant à tous les coins de rue les noms de celle-ci, tu finiras par trouver la tienne. » Le garçon le remercia et se mit à parcourir la rue qui s'ouvrait devant lui. C'était une rue droite et interminable, mais étroite, flanquée de maisons basses et blanches, qui ressemblait à autant de petites villas. Une foule de passants, de voitures et de charrettes faisait un bruit assourdissant, et çà et là flottaient des bannières de toutes couleurs, annonçant en gros caractères le départ de bateaux pour des villes inconnues. À chaque 20 pas, en se tournant à droite et à gauche, Marc voyait deux autres rues qui fuyaient à perte de vue, bordées de maisons basses et blanches, pleines aussi de monde et de véhicules. Ces villes d'Amérique sont toutes composées d'ainsi, en ligne droite sur la plaine immense, aussi vaste que l'océan. La ville semblait interminable à Marco, et il eût parié qu'on pouvait marcher des jours et des semaines, voyant toujours à droite et à gauche des rues semblables à celles-ci, et que toute l'Amérique devait en être couverte. Il regardait attentivement les noms des rues qui croisaient celles qu'il suivait, des noms étrangers qu'il avait quelque peine à épeler. À chaque nouvelle rue, son cœur battait en pensant que ce pouvait être celle qu'il cherchait. Il regardait toutes les femmes dans l'espoir de voir sa mère. Il en vit une devant lui qui le fit tressaillir. Il la rejoignit, la regarda. C'était une négresse. Il marchait, marchait, pressant le pas. Arrivé à un carrefour, il lut et resta comme cloué sur le trottoir. C'était la rue des Los Artes. Il se tourna, vit le numéro 117. La boutique du cousin était au numéro 175. Il pressa encore le pas. Au numéro 171, il dut s'arrêter pour reprendre haleine et murmura « Maman, maman, est-il possible que dans quelques minutes je te verrai ?» Il courut et arriva à une petite boutique de mercerie. Il y entra et trouva une femme aux cheveux gris portant des lunettes. « Que voulez-vous, mon enfant ? » demanda-t-elle en espagnol. « N'est-ce pas ici la boutique de François Merelli ? » balbutia-t-il. François Merelli est mort, répondit la dame en italien. L'enfant reçut comme un coup en pleine poitrine. Depuis quand est-il mort ? Eh, depuis quelques mois, répondit la dame. Après avoir fait de mauvaises affaires, il se sauva. On dit qu'il a été à Bahia Blanca, très loin d'ici, et qu'il est mort à peine arrivé. La boutique est à moi. L'enfant pâlit, puis dit rapidement « Merelli connaissait ma mère. Elle était ici en service, chez le signor Mequignes. Lui seul pouvait me dire où elle habite. Je suis venu d'Italie en Amérique à la recherche de ma mère. Merelli lui envoyait nos lettres. Il faut que je retrouve ma mère. »« Pauvre enfant, répondit la dame, moi je ne sais rien. Je peux demander au garçon qui faisait les courses pour Merelli. Peut-être saura-t-il dire quelque chose. » Elle alla au fond de la boutique et appela. Un garçon arriva aussitôt. « Dis-moi un peu, lui dit la marchande, te rappelles-tu si Merelli te faisait quelquefois porter des lettres à une servante placée chez des fils du pays ?»« Chez le seigneur Mequines ?» répondit l'enfant. « Oui, madame, j'y allais souvent, au bout de la rue de Los Artes. »« Oh, merci, mon ami !» cria Marco. « Veuillez me dire le numéro. Vous ne le savez pas ?» « Voulez-vous m'accompagner ? J'ai encore quelques sous. » Marco dit cela avec tant de chaleur que, sans attendre l'ordre de la mercière, le garçon répondit « Allons !» et sortit le premier. Presque en courant, sans se dire un mot, ils allèrent au bout de la rue, très longue, et s'arrêtèrent devant l'entrée d'une maison blanche, entourée d'une grille de fer, d'où l'on entrevoyait une petite cour pleine de vases de fleurs. Marco tira la sonnette. Une jeune fille parut. « C'est ici qu'habite la famille Mekines, n'est-ce pas ?» demanda l'enfant avec anxiété. « Elle a habité ici, en effet, » répondit la jeune fille avec un fort accent espagnol. « À présent, nous y habitons, nous, jeune homme. »« Et où sont allés les Mekines ?» demanda Marco, le cœur haletant. « Ils sont allés à Cordova. »« Cordova ?» s'exclama Marco. « Où est Cordova ? Et la domestique qu'ils avaient ?» « Ma mère ! La domestique était ma mère ! L'ont-ils emmenée avec eux ?» La jeune fille le regarda et répondit. « Je ne sais pas, mon père le saura peut-être. Il a connu les Mekines au moment de leur départ. Attendez un instant. » Elle disparut et revint peu après, suivie de son père, un homme grand à la barbe grise. Celui-ci regarda fixement ce type sympathique de petit marin génois, aux cheveux blonds, au nez aquilin, et lui demanda en mauvais italien. « Ta mère est génoise ?»« Oui, » répondit Marco. « Eh bien, la domestique génoise est allée avec les Mekines, j'en suis sûr. »« Et où sont-ils allés ?»« À Cordova. » L'enfant poussa un soupir. « Alors, j'irai à Cordova, » dit-il avec résignation. « Ah, pobre niño !»« Pauvre enfant !» s'écria l'Espagnol d'un air de pitié. « Cordova est à 100 lieues d'ici. » Marco devint pâle comme un mort et s'appuya chancelant à la grille. « Voyons, voyons !» dit alors le vieux seigneur, ému de compassion. « Viens un instant, nous allons voir si je puis faire quelque chose pour toi. » Il fit entrer Marco, lui offrit un siège et l'engagea à raconter son histoire. Il l'écouta avec beaucoup d'attention, resta pensif, puis dit résolument. « Tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas ?»«
J'en ai encore très peu, » balbutia Marco.
Le seigneur réfléchit un moment, puis se mit à son secrétaire où il écrivit une lettre, la ferma et, la tendant à Marco, lui dit « Écoute, mon petit Italien, va avec cette lettre à la Bocca. C'est une petite ville à demi-génoise, non loin d'ici, 2 heures de chemin au plus. Tout le monde saura t'indiquer la route. » Une fois arrivé, tu chercheras le seigneur auquel est adressée cette lettre. Il est connu comme le loup blanc. Porte-lui mon message et il te fera partir demain pour la ville de Rosario et te recommandera là à quelqu'un qui aura soin de te faire continuer ton chemin jusqu'à Cordova. À Cordova, tu trouveras la famille Mekines et ta mère. En attendant, prends ceci. Il lui mit dans la main quelques francs. Va et aie courage, ajouta-t-il. Tu trouveras ici de tous côtés des compatriotes qui ne t'abandonneront pas. Adios !» Marco murmura merci sans trouver d'autres paroles. Il sortit, sa valise à la main, congédia son petit guide et se mit à suivre lentement le chemin à travers la grande cité bruyante qui conduisait à Bocca, le front triste, le cœur serré. Tout ce qui lui arriva à partir de ce jour jusqu'au soir du lendemain lui resta confusément dans la mémoire comme un cauchemar fiévreux, tant il était fatigué et découragé. Le jour suivant, vers le crépuscule, après avoir passé une nuit dans une petite chambre d'auberge de la Bocca, à côté d'un portefeuille du port, et sa journée assis sur un monceau de poutre, à demi éveillé, regardant des milliers de bâtiments, de barques et de remorqueurs, il se trouva à l'arrière d'une grande barque à voile, chargée de fruits, qui partait pour Rosario, conduite par 3 robustes gaillards génois bronzés au soleil. La voix de ses compatriotes parlant le dialecte aimé de sa ville natale lui remit un peu de baume dans le cœur. Ils partirent. La traversée dura 3 jours et 4 nuits, qui furent un étonnement pour le pauvre petit voyageur. 3 jours et 4 nuits naviguant sur ce fleuve merveilleux, le Paragna, auprès duquel le Pô est un ruisseau, et dont la longueur dépasse de 4 fois celle de toute l'Italie. La grande barque allait doucement, luttant contre cette masse d'eau démesurée, et passant non loin d'îles plantées d'orangers et de saules, pareilles à des bosquets flottants, repaires de serpents et de tigres. Plus loin, on se trouvait dans des trois canaux dont on aurait cru ne pouvoir sortir et qui menaient à de vastes étendues d'eau ayant l'aspect de grands lacs tranquilles. Puis c'étaient encore des îles, les détroits de l'archipel, bouquets énormes de végétation luxuriante. Il régnait partout un silence profond, ses rives et cette eau solitaire donnaient l'idée d'un fleuve inconnu sur lequel la barque à voile eût été la première à s'aventurer. Plus on avançait, et plus ce fleuve monstrueux épouvantait Marco. Il s'imaginait que sa mère se trouvait aux sources du Paragne et que la navigation devait durer des années. Deux fois par jour, le petit voyageur mangeait un peu de pain et de viande salée avec les bateliers qui, le voyant triste, ne lui adressaient jamais la parole. La nuit, Marco se réveillait de temps à autre, frappé par la clarté limpide de la lune qui blanchissait les eaux immenses et les rives lointaines. Son cœur se serrait alors. Cordova. Il répétait ce nom, Cordova, comme le nom d'une de ces cités mystérieuses des contes de fées. Puis il pensait, « Ma mère a passé par là, elle a vu ses îles, elle a vu ses rives. » Et alors les pays étrangers lui semblaient moins solitaires en pensant que sa mère les avait vus. La dernière nuit, un des bateliers chanta. C'était une chanson avec laquelle sa mère l'endormait lorsqu'il était petit. En l'entendant, Marco se mit à sangloter. Le batelier s'interrompit. « Allons, courage, figlio !» lui cria-t-il. « Que diable ! Un Génois qui pleure parce qu'il est loin de chez lui, fi ! Les Génois font le tour du monde, glorieux et triomphant !» À ces paroles, Marco se secoua, sentit la voix du sang génois, leva le front avec fierté et frappant du poing le timon. « Devrais-je, moi aussi, faire le tour du monde, voyager encore pendant des années et faire des centaines de lieues à pied, j'irai en avant jusqu'à ce que je retrouve ma mère. Dussé-je arriver mourant et expirer à ses pieds, mais que je la voie une seule fois et je serai content. » Encouragé de la sorte, il arriva à l'aube d'un beau matin à la ville de Rosario, située sur la rive haute du Paragne, où se miraient dans les eaux les drapeaux de 100 bâtiments de tout pays. Aussitôt débarqué, il parcourut la ville, sa valise à la main, cherchant un seigneur argentin pour lequel son protecteur de Boca lui avait donné une carte de visite avec quelques mots de recommandation. En entrant à Rosario, Marco crut retrouver une ville déjà connue. C'étaient les mêmes rues interminables, droites, bordées de maisons blanches et basses, traversées dans toutes les directions, au-dessus des toits, par de grandes bandes de fils télégraphiques et téléphoniques, qui paraissaient d'énormes toiles d'araignées. Puis un grand mouvement de gens, de chevaux et de charrettes. La tête de Marco se brouillait, il crut être rentré à Buenos Aires, où il cherchait une autre fois son cousin. Il alla de droite et de gauche pendant près d'une heure, croyant presque être toujours dans la même rue. À force de demander, il trouva la maison de son nouveau protecteur. Il tira le cordon de sonnette. Un gros homme blond, à l'aspect rude, avec l'air d'un intendant, apparut à la porte d'entrée. Il demanda brusquement à Marco ce qu'il désirait. L'enfant lui nomma son maître. « Le maître ? » répondit l'intendant. « Il est parti hier pour Buenos Aires avec toute sa famille. » Le pauvre petit resta muet de surprise, puis il balbutia. « Mais moi, je ne connais personne ici, je suis seul !» Et il tendit la carte de visite. L'intendant la prit, la lut et lui dit durement. « Que veux-tu que j'y fasse? Je lui donnerai cela dans un mois quand il reviendra. »«
Mais je suis seul, j'ai besoin de son aide !» s'écria l'enfant d'une voix tremblante de larmes.
« Allons, marche !» dit l'autre. « Il n'y a peut-être pas assez de tes compatriotes à Rosario. Va-t'en mendier en Italie !»
L'intendant ferma la grille et l'enfant resta là, pétrifié. Enfin, il reprit sa valise et sortit, le cœur plein d'angoisse, l'esprit assailli de mille pensées tumultueuses. Que faire? Où aller? De Rosario à Cordova, il y avait une journée de chemin de fer. Marco n'avait plus en poche que quelques francs. En prélevant ce dont il avait besoin pour sa journée, il ne lui restait presque plus rien. Où trouver l'argent pour payer son voyage? Il pouvait travailler, mais comment? À qui demander de l'ouvrage? Tendre la main? Ah non, Être repoussé, insulté, humilié comme il venait de l'être par cet intendant, non, jamais, plutôt mourir. À cette idée, et en revoyant devant lui la longue rue qui se perdait dans la plaine infinie, il sentit son courage lui échapper une autre fois. Il jeta sa valise sur le trottoir, s'assit dessus, les épaules au mur, et pencha son visage entre ses mains, sans pleurer, mais dans une attitude désolée. Les gens affairés le heurtaient du pied en passant. Les charrettes roulaient avec bruit, des enfants s'arrêtaient à le regarder. Et Marco restait toujours terrassé par le découragement. Il fut tout à coup réveillé de sa torpeur par une voix qui lui demandait, moitié en italien, moitié en lombard. « Qu'as-tu, mon petit garçon ?» Marco leva les yeux et aussitôt bondit sur ses pieds en jetant une exclamation de surprise. « Vous, ici ?» C'était le vieux paysan lombard avec lequel il s'était lié pendant sa traversée de Gênes à Buenos Aires. La surprise du paysan égala celle du garçonnet, qui ne lui laissa point le loisir de l'interroger et raconta rapidement ses déceptions. « Maintenant, je suis sans le sou. Voilà, acheva-t-il, il faut que je travaille. Trouvez-moi de quoi m'employer pour mettre de côté quelques francs. Je ferai le métier qu'on voudra, portefeuille, balayeur, commissionnaire, même des travaux d'agriculture. Je me contente de vivre de pain noir, mais que je puisse partir vite, que je puisse retrouver enfin ma mère. » « Faites-moi cette charité, du travail, trouvez-moi du travail, pour l'amour de Dieu, car je n'en puis plus !»«
Diable, diable !» fit le paysan, regardant autour de lui et se grattant le menton. « Quelle affaire !»«
Travailler, c'est vite dit. Voyons un peu s'il n'y a pas moyen de trouver 30 francs parmi tant de compatriotes. »
Marco le regardait, réconforté par ce rayon d'espérance. « Viens avec moi, » dit le paysan.
« Où ça ?» demanda l'enfant en prenant sa valise.
« Viens avec moi !»
Le paysan se mit en marche. Marco le suivit. Ils firent un long bout de chemin ensemble sans parler. Le lombard s'arrêta devant la porte d'une hôtellerie qui avait pour enseigne une étoile avec cette inscription « L'étoile d'Italie ». Le paysan, après avoir regardé dans l'intérieur, se tourna vers Marco et lui dit d'un ton allègre « Nous arrivons au bon moment !»
Ils entrèrent tous deux dans une grande pièce où se trouvaient des hommes attablés, buvant et parlant fort. Le vieux lombard s'approcha de la première table et, de la façon dont il salua les 6 convives qui s'y trouvaient, on comprenait qu'il venait à peine de les quitter. Ils étaient rouges et faisaient bruire leurs verres, en riant et en chantonnant. « Camarades, » dit sans préambule le lombard, restant debout et présentant Marco. « Voici un pauvre enfant, notre compatriote, venu seul de Gênes à Buenos Aires pour chercher sa mère. À Buenos Aires, on lui dit, elle n'est pas ici, elle est à Cordova. Il vint en barque à Rosario, 3 jours et 4 nuits, avec 2 lignes de recommandation à un seigneur. L'enfant présente sa carte, on le rembarre. Le pauvre n'a pas un centime, il est seul ici et désespéré. C'est un enfant plein de cœur. » « Voyons un peu, ne pourrions-nous trouver entre nous tous de quoi payer son billet pour aller rejoindre sa mère? Devons-nous le laisser comme un chien ?»«
Jamais de la vie, par Dieu, cela ne sera pas !» crièrent tous les buveurs en frappant la table du poing. « Un compatriote, viens ici, petit. Nous sommes là, nous, les émigrants. Regardez ce beau gamin. Allons, ouvrez la bourse, camarade. Tu es venu seul? Bravo, tu as du cœur. N'aie pas peur, nous te ferons retrouver ta mère. »
Un des émigrants lui pinçait le menton, un autre mettait sa main sur son épaule, un troisième le débarrassait de sa valise. D'autres ouvriers se levèrent des tables voisines et s'approchèrent. L'histoire de Marco fit le tour de la salle. Il accourut d'une chambre voisine 3 pratiques argentines. En moins de 10 minutes, le paysan lombard qui tendait son chapeau reçut 40 francs.
« Tu as vu, » dit-il en se tournant vers l'enfant, « comme cela se fait vite en Amérique ?»«
Bois à la santé de ta mère, » dit un émigrant en lui tendant un verre.
« À la santé de ta mère, » firent les ouvriers en élevant leur verre.
Marco répéta, « À la santé de ma... »
Mais un sanglot de joie l'empêcha de continuer et, ayant posé son verre sur la table, il se jeta au cou de son vieil ami. Le matin suivant, à l'aube, Marco était en chemin pour Cordova, radieux et l'esprit hanté de pressentiments heureux. Mais il n'est point de joie qui résiste à certains aspects sinistres de la nature. Le temps était lourd et gris, le train, à peu près vide, courait à travers une immense plaine déserte. Marco se trouvait seul dans un wagon très long, pareil à ceux où l'on dépose les blessés en temps de guerre. Il regardait à droite et à gauche et ne voyait qu'une solitude sans fin, semée de loin en loin de petits arbres déformés, rabougris. L'herbe de couleur foncée, rare et triste, donnait à cette plaine l'apparence d'un cimetière interminable. Marco sommeillait pendant une demi-heure et se prenait à regarder ce spectacle uniforme. Les stations du chemin de fer étaient solitaires comme des cabanes d'ermites, et quand le train s'arrêtait, on n'entendait pas une voix s'élever. Marco se croyait seul dans le train, perdu, abandonné au milieu d'un désert. Le pauvre enfant s'imaginait que chaque station devait être la dernière et qu'après cela, on pénétrerait dans les pays mystérieux et terrifiants des sauvages. Une brise glacée mordait son visage. En l'embarquant à Gênes vers la fin d'avril, son père n'avait pas pensé qu'en Amérique il trouverait l'hiver et on l'avait vêtu comme pour l'été. Après quelques heures de voyage, Marco commença à souffrir du froid. Au froid s'ajouta la fatigue des jours précédents, plein de commotions violentes, de nuits d'insomnie et d'inquiétude. Il s'endormit, dormit longtemps, se réveilla transi, se sentant malade. Alors il fut pris d'une autre terreur, la peur de tomber malade, de mourir en voyage, d'être jeté là, dans cette plaine désolée, où son cadavre eût été dévoré par les chiens et les oiseaux de proie, comme certaines carcasses de chevaux et de bœufs qu'il voyait de temps à autre et dont son regard se détournait avec horreur. Dans ce malaise et cette inquiétude, au milieu de ce sombre silence de la nature, son imagination s'excitait et broyait du noir. Était-il sûr de trouver sa mère à Cordova? Et si elle n'y était pas? Si le seigneur de Buenos Aires s'était trompé? Si elle était morte? Il s'endormit de nouveau dans ses tristes pensées, rêva qu'il était arrivé la nuit à Cordova et que de toutes les portes et de toutes les fenêtres, des voix lui criaient « Elle n'y est pas! Elle n'y est pas !» Il se réveilla en sursaut et vit au fond du wagon trois hommes barbus enveloppés dans des châles de différentes couleurs qui le regardaient en parlant bas entre eux. Un soupçon traversa l'esprit halluciné de Marco. Peut-être ces hommes étaient-ils des assassins qui voulaient le tuer et le voler. Au malaise qu'il éprouvait déjà se joignit la peur. Les trois hommes le regardaient toujours fixement. Un d'eux se leva et vint à lui. Alors, perdant la raison, Marco courut au-devant de l'inconnu, les bras ouverts, en criant « Je n'ai rien, je suis un pauvre enfant venu de l'Italie pour retrouver maman. Je suis seul, ne me faites pas de mal !» Les étrangers comprirent de suite l'erreur de l'enfant. Ils en eurent pitié, le rassurèrent le mieux qu'ils purent en espagnol, et voyant que ses dents claquaient de froid, ils lui mirent un de leurs châles sur les épaules et le laissèrent s'endormir de nouveau. Quand Marco se réveilla, on était à Cordova. Ah, avec quel soupir de soulagement, avec quel élan il se jeta hors du wagon. Il demanda à un employé de la station l'adresse de l'ingénieur Mekines, celui-ci nomma une église. La maison était près de cette église. L'enfant se mit en marche, il faisait nuit. Il entra dans la ville et il sembla à Marco qu'il revoyait Rosario avec ses maisons basses et blanches encadrant des rues longues et droites. Mais il y avait peu de monde à la clarté de réverbères très espacés. Il rencontrait des visages étranges d'une couleur inconnue entre le noirâtre et le verdâtre et, en levant la tête, il apercevait des églises d'architecture bizarre qui se dessinaient énormes et noires sur le firmament. La ville était obscure et silencieuse. Mais auprès de l'immense désert qu'il venait de traverser en chemin de fer, cette ville lui parut gaie. Il interrogea un prêtre qui passait, trouva l'église, la maison voisine, et tira la sonnette d'une main tremblante. Son cœur battait à coups redoublés qui montaient jusqu'à sa gorge. Une vieille vint ouvrir une lumière à la main. L'enfant ne pouvait trouver une parole. « Que cherches-tu ? » demanda celle-ci en espagnol. L'ingénieur Mekines, dit Marco.
La vieille croisa les bras sur la poitrine et dit en branlant la tête.
« Toi aussi, tu cherches l'ingénieur Mekines. Il me semble qu'il serait temps d'en finir. Voilà 3 mois qu'on nous ennuie. Il ne suffit donc pas que les journaux l'aient dit. Faut-il faire imprimer à tous les coins de rue que le seigneur Mekines est allé demeurer à Tucumán ?»
L'enfant eut un geste désespéré, un éclat de colère.
« C'est donc une malédiction !» s'écria-t-il. « Je devrais mourir dans la rue sans trouver ma mère. Je deviens fou. Je veux en finir, mon Dieu !»«
Comment s'appelle le pays, dites-vous ? Où est-il ? À quelle distance ?»«
Eh, mon pauvre garçon !» dit la vieille apitoyée. « Une bagatelle. Il y a quelque chose comme 400 ou 500 miles d'ici à Tucumán. »
L'enfant se couvrit le visage de ses mains et demanda dans un sanglot.
« Et maintenant, que faire ?»«
Que veux-tu que je te dise, pauvre enfant ?» reprit la femme.
« Je ne sais pas. »
Tout à coup, une idée lui vint et elle ajouta.
« Écoute, maintenant j'y pense. Fais une chose. Tourne à droite dans la rue, tu trouveras à la 3e porte une grande cour. Il s'y trouve un capataz, un commerçant qui part demain pour Tucumán avec ses chars et ses bœufs. Va voir s'il veut te prendre avec lui, fais-lui tes offres de service, il te donnera peut-être une place sur le char. Va vite !»
L'enfant saisit sa valise, remercia et se sauva. 2 minutes après, il se trouvait dans une vaste cour éclairée par des lanternes où des hommes étaient occupés à charger des sacs de froment sur un véhicule énorme semblable à ceux des saltimbanques, avec le toit arrondi et les roues très hautes. Un homme grand et barbu, enveloppé dans une espèce de manteau à carreaux noirs et blancs, dirigeait le travail. L'enfant s'approcha de lui et lui fit timidement sa demande, ajoutant qu'il venait d'Italie et allait rejoindre sa mère. Le capataz, ou maître conducteur de ce convoi de chars, le regarda des pieds à la tête et lui dit sèchement « Il n'y a pas de place !»«
J'ai 15 francs !» reprit l'enfant d'une voix suppliante. « Je vous les offre, et durant la route, je travaillerai. J'irai chercher l'eau et le fourrage pour les bestiaux. Je ferai tout ce qu'on me demandera. Un peu de pain me suffit. Donnez-moi une toute petite place, Seigneur !»
Le capataz le regarda encore et répondit moins durement.
« Il n'y a pas de place. Et puis, nous n'allons pas à Tucumán, nous allons à une autre ville, Santiago del Estero. » « À un certain endroit, nous devrions te laisser et tu aurais encore un long trajet à faire à pied. »«
Ah, j'en ferai le double !» s'exclama Marco.
« Réfléchis, il s'agit d'un voyage de 20 jours. »«
Qu'importe !
C'est un voyage dur.
Je supporterai tout.
Tu devras voyager seul.
Je n'ai peur de rien pourvu que je retrouve ma mère. Ayez pitié de moi !»
Le capataz approcha une lanterne du visage de l'enfant et le regarda.
« C'est bien, » dit-il après cet examen.
L'enfant lui baisa la main.
« Cette nuit, tu dormiras dans un char, » ajouta le capataz en le laissant. « Demain matin à 4 heures, je te réveillerai. Buenas noches !»
Le lendemain à 4 heures, à la clarté des étoiles, la longue file de chars se mit en mouvement avec bruit. Chaque char était tiré par 6 bœufs, suivis d'un grand nombre d'animaux de rechange. L'enfant réveillé fut mis dans un des chars sur des sacs où il se rendormit de suite profondément. Quand il se réveilla, le convoi s'était arrêté dans un lieu solitaire où les hommes, les peones, étaient assis en cercle autour d'un quartier de veau qui cuisait en plein air, enfilé dans une haute pique plantée en terre, à côté d'un grand feu agité par le vent. Ils devaient manger tous ensemble, dormir et repartir. Le voyage continua ainsi, réglé comme une marche de soldats. On se mettait en route chaque matin à 5 heures, on s'arrêtait à 9 heures, on repartait à 5 heures du soir, on s'arrêtait de nouveau à 10 heures. Les péones allaient à cheval à côté des chars et stimulaient les bœufs en les piquant avec de longs aiguillons. Marco, lui, allumait le feu pour le rôti, donnait à manger aux bêtes, nettoyait les lanternes, portait l'eau à boire. Les pays passaient sous ses yeux comme des visions indistinctes. Vasques bosquets de petits arbres bruns, hameaux semés de rares maisons aux façades rouges, crénelées.
espaces immenses, anciens lits de grands lacs salés, tout blanc de sel à perte de vue. De tous côtés est toujours la monotonie de la plaine, de la solitude et du silence. Parfois on rencontrait deux ou trois cavaliers, suivis par un troupeau de chevaux en liberté, qui passaient en galopant, pareils à un tourbillon. Les jours se suivaient uniformes, pareils à ceux que Marco avait passés sur mer, dans un ennui sans fin. Le temps était beau. Seulement les péones devenaient de jour en jour plus exigeants, comme si l'enfant eût été leur serviteur. Quelques-uns le traitaient durement, le menaçaient, tous se faisaient servir sans égard pour l'âge et les forces de l'Italien. On lui faisait porter d'énormes charges de fourrage, on l'envoyait chercher de l'eau à de grandes distances, et Marco, rompu de fatigue, ne pouvait même pas dormir la nuit, secoué qu'il était par les violents cahots du char et le grincement assourdissant des roues et des essieux de bois. Pour comble, le vent s'étant levé, une poussière fine, roussâtre et grasse, s'infiltrait partout, pénétrait dans les chars, sous les vêtements, brûlant les yeux et la bouche du malheureux enfant, lui enlevant la vue et oppressant son souffle, continuellement, d'une façon insupportable. Accablé de fatigue et d'insomnie, grondé et malmené du matin au soir, ses habits salis et déchirés, le pauvre garçon se décourageait chaque jour, et il aurait perdu tout à fait courage si le capataz ne lui avait adressé de temps à autre quelques bonnes paroles. Souvent, étant seul dans un coin du char, il pleurait, le visage caché contre sa valise, laquelle ne contenait plus que des haillons. Chaque matin, Marco se levait plus faible et plus découragé. En regardant la campagne et ses plaines interminables comme un océan de terre, il se disait « Je n'arriverai pas jusqu'à ce soir, je mourrai en chemin. » Les fatigues et les mauvais traitements redoublaient. Un jour, parce qu'il n'avait pas apporté l'eau à temps, on profita de l'absence momentanée du capataz pour le secouer. Un des hommes lui donna un soufflet en disant « Attrape cela, vagabond ! Porte ceci à ta mère !» fit un autre en lui donnant un coup de pied. Le pauvre petit n'y tint plus, il tomba malade. Il resta 3 jours dans le char, grelottant la fièvre sous une couverture, ne voyant personne que le capataz qui venait lui donner à boire et tâter son pouls. Marco se crut perdu. Il invoqua sa mère avec désespoir. « Oh, maman, maman, je ne te verrai plus. Viens à mon secours, maman, viens au-devant de moi, je me meurs, tu me trouveras mort dans le chemin. » Il croisait ses mains sur sa poitrine et priait. Grâce aux soins du capataz, il guérit. Mais avec la guérison, arriva le jour le plus terrible de son voyage, celui où il devait le continuer seul. Depuis plus de 2 semaines, on était en route. Quand on arriva au point où de la route de Tucumán se détache celle qui va à Santiago del Estero, le capataz lui annonça qu'il devait se séparer. Il lui donna quelques indications sur le chemin à parcourir, lui attacha la valise sur les épaules de façon à ce qu'elle ne l'empêchât pas de marcher, et coupant court, comme s'il craignait de s'attendrir, il lui dit adieu. L'enfant eut à peine le temps de saisir son bras et de l'embrasser. Les autres hommes, qu'il avait maltraités si durement, parurent éprouver de la pitié à le laisser seul et lui firent un signe d'adieu en s'éloignant. Marco rendit le salut de la main, regarda le convoi, aussi loin qu'il put le voir se perdre au loin derrière les nuages de poussière rouge, puis il se mit en chemin tristement. Une chose cependant le réconfortait un peu, même depuis le commencement du voyage. C'était de voir à l'horizon une chaîne de montagnes bleues, aux cimes élevées et blanchies, qui lui rappelaient la chaîne des Alpes et semblaient par cela même le rapprocher de son pays. Or, ces montagnes n'étaient point les Alpes, mais les Andes, l'épine dorsale du continent américain, la chaîne immense qui s'étend de la Terre de Feu jusqu'à la mer glaciale du pôle arctique, à travers 110 degrés de latitude. Ce qui le réconfortait aussi, c'était de sentir l'atmosphère qui s'adoucissait, et cela venait de ce que, remontant vers le septentrion, il se rapprochait des régions tropicales. À de grands intervalles, Marco trouvait de petits groupes de maisons et une misérable boutique où il achetait un peu de nourriture. Il rencontrait de temps à autre des hommes à cheval et voyait des femmes et des enfants assis par terre, immobiles et graves, avec des figures tout à fait étranges, couleur de terre, les yeux obliques, les lèvres avancées, qui le regardaient fixement et le suivaient du regard en tournant lentement la tête comme des automates. C'étaient des Indiens. Le premier jour, Marco marcha jusqu'à ce que ses forces se fussent épuisées et dormit sous un arbre. Le second jour, il marcha moins longtemps et avec moins de courage. Il avait les souliers troués, les pieds déchirés, l'estomac affaibli par les privations. Vers le soir, il commença à avoir peur. Il avait entendu dire en Italie que dans ces pays-là, il y avait des serpents. Il crut les entendre ramper, s'arrêta, reprit sa course, ayant des frissons dans la moelle des os. Quelquefois, il avait une grande compassion de lui-même, pleurait en silence tout en marchant, et se disait « Oh, combien maman souffrirait si elle connaissait ma peur !» Cette pensée lui redonnait un peu de courage. Puis, pour se distraire de la peur, il se rappelait toutes sortes de choses touchant sa mère. Ses dernières paroles, en quittant Gênes, et la façon dont elle bordait ses couvertures, presque sous le menton, quand il était au lit. Et, lorsqu'il était petit, elle le prenait quelquefois dans ses bras en disant « Viens un peu ici, près de moi !» Marco marchait ainsi, en évoquant le souvenir de sa mère chérie et des jours heureux. Il se disait en lui-même « Te reverrai-je un jour, chère maman? Arriverai-je au terme de mon voyage? Dis, maman !» Et il marchait, marchait, à travers les arbres au feuillage inconnu, les plantations de cannes à sucre, les prairies sans fin, ayant toujours devant les yeux ces hautes montagnes d'azur, profilant sur le ciel limpide leurs cônes immenses. 4, 5 jours, une semaine se passèrent. Les forces de l'enfant s'épuisaient, ses pieds étaient ensanglantés. Enfin, un soir, on lui dit « Tucumán est à 50 miles d'ici ». Marco jeta un cri de joie et pressa le pas, cet espoir lui donnait une nouvelle vigueur. Mais ce fut une brève illusion. Ses forces l'abandonnèrent tout à coup et il tomba sur le bord d'un fossé, exténué. Son cœur battait de joie cependant. Le ciel parsemé d'étoiles ne lui avait jamais paru si beau. Il le contemplait doucement de l'herbe où il s'était couché pour dormir et, en pensant que sa mère regardait peut-être le ciel au même instant, il murmura « Maman, où es-tu? Que fais-tu en ce moment? Penses-tu à ton fils qui est si près de toi ?» Pauvre Marco, s'il avait pu voir dans quel état se trouvait sa mère à cet instant, il aurait fait un effort surhumain pour marcher encore, pour arriver près d'elle quelques heures plus tôt. La Génoise était malade au lit, au rez-de-chaussée d'une belle maison où habitait la famille Mequines. Cette famille avait pris en affection la pauvre servante et la soignait de son mieux. Elle était déjà souffrante quand l'ingénieur Mequines lui quittait brusquement Buenos Aires et elle n'avait pu se remettre au bon air de Cordova. Puis, ne recevant plus de réponse aux lettres envoyées à son mari et à son cousin, elle pressentait qu'il était arrivé quelque malheur au sien. L'anxiété dans laquelle elle vivait, incertaine entre un départ ou une continuation de séjour, avait augmenté de beaucoup son mal. Dans les derniers temps, un accident grave s'était produit chez elle, une hernie intestinale étranglée. Depuis 15 jours, elle ne se levait plus du lit et une opération chirurgicale était nécessaire pour lui sauver la vie. Juste au moment où Marco l'invoquait, le maître et la maîtresse de la maison étaient à son chevet, la raisonnant avec beaucoup de douceur pour la décider à se faire opérer, et elle persistait dans son refus en pleurant. Un médecin de Tucumán était déjà venu la semaine précédente inutilement. « Non, cher maître, disait la génoise, je n'ai plus la force de résister. Je mourrai sous le fer du chirurgien. Il vaut mieux me laisser ainsi. Je ne tiens plus à la vie, tout est fini pour moi. Il est préférable que je meure avant d'apprendre ce qui est arrivé à ma famille. » Les Mequines la reprenaient avec patience, lui disant d'avoir du courage, qu'elle recevrait une réponse aux lettres envoyées directement à Gênes, mais qu'elle se laissât opérer par amour pour ses fils. La pensée de ses enfants ne faisait qu'aggraver ses angoisses et son découragement. En les entendant invoquer, la malheureuse éclata en sanglots. « Ah, mes enfants !» disait-elle en joignant les mains. « Ils n'existent sans doute plus. Il vaut mieux que je meure, moi aussi. Je vous remercie, mes bons maîtres. Je ne guérirais même pas si on me faisait l'opération, j'en suis sûre.
Merci de vos bontés, cher maître. Il est inutile que le docteur vienne après-demain. Je veux mourir. C'est mon destin de mourir ici. »
Et ceci tâchait de la consoler encore, lui prenait les mains et la priait de se laisser faire. La malade alors fermait les yeux, épuisée, tombant dans un assoupissement qui ressemblait à la mort. Les Mekines restaient à garder cette mère admirable qui, pour le salut de sa famille, était venue mourir à 6 000 miles de sa patrie, mourir après avoir tant souffert la pauvre femme, si bonne, si honnête et si malheureuse. Le jour suivant, de bon matin, sa valise sur le dos, courbé et boitant mais plein de courage, Marco entrait à Tucumán, une des plus jeunes et des plus florissantes villes de la République argentine. Il sembla à l'enfant revoir Cordova, Rosario, Buenos Aires. C'étaient les mêmes rues droites et longues, les mêmes maisonnettes blanches et basses, mais de tous côtés, une végétation nouvelle et magnifique, un air parfumé, une lumière éclatante, un ciel limpide et profond, comme il n'en avait jamais vu, même en Italie. En marchant dans les rues, Marco fut repris de l'agitation fébrile qu'il avait envahie à Buenos Aires. Il regardait les fenêtres et toutes les portes des maisons, toutes les femmes qui passaient, dans l'espoir de rencontrer sa mère. Il aurait voulu interroger tout le monde et n'osait arrêter personne. On regardait et on se retournait sur ce pauvre garçon en guenilles, couvert de poussière, qui paraissait venir de bien loin. Et lui regardait dans la foule un visage qui inspira de la confiance pour lui adresser sa demande. Les yeux de Marco tombèrent sur l'enseigne d'une boutique où était écrit un nom italien. Dans le magasin se trouvait un homme à lunettes et deux femmes. Il s'avança lentement vers la porte et, prenant sa résolution, il demanda « Sauriez-vous me dire, monsieur, où habite la famille Mekines ?»«
La famille de l'ingénieur Mekines ?» demanda le boutiquier.
« Oui, de l'ingénieur Mekines, » répondit l'enfant avec un fil de voix.
« La famille Mekines, » dit le boutiquier, « n'habite point Tucumán. »
Un cri de désespoir, aussi poignant que le cri d'un blessé à mort, répondit à ces paroles. Le boutiquier et les femmes se levèrent, quelques voisins accoururent.
« Qu'est-ce, qu'as-tu, mon enfant ?» dit le boutiquier, attirant Marco chez lui et le faisant asseoir.
« Il n'y a pas à se désespérer, que diable !» Les Mekines ne sont pas ici, mais aux environs, à quelques heures de Tucumán.
Où cela? Où cela? Cria Marco, se levant comme un ressuscité.
À une quinzaine de miles d'ici, continua l'homme, sur les rives du Saladillo, où l'on est en train de construire une fabrique de sucre. Il y a là un groupe de maisons, parmi lesquelles se trouve celle de l'ingénieur Mekines. Tout le monde saura te l'indiquer, et tu y arriveras en quelques heures.
« J'y suis allé, moi, il y a quelques semaines, » dit un jeune homme qui était accouru au cri poussé par Marco.
Marco le regarda de ses grands yeux dilatés et lui demanda vivement en pâlissant.
« Avez-vous vu la domestique de M. Mekines, l'italienne ?»«
La génoise, je l'ai vue. »
Marco éclata en sanglots convulsifs entre les pleurs et le rire. Puis, avec élan, prit une résolution violente.
« Par où va-t-on ? Vite, le chemin ! Je pars de suite, indiquez-moi le chemin !»«
Mais il y a une journée de marche, » dit-on autour de lui. « Tu es fatigué, petit, tu dois te reposer, tu partiras demain. »«
Impossible, impossible !» répondit le garçon. « Dites-moi le chemin, je n'attends plus un moment, dussé-je mourir en route ?»
En le voyant décidé irrévocablement, on ne le retint plus.
« Dieu t'accompagne, » lui dit-on. « Fais attention au chemin dans la forêt. Bon voyage, petit Italien !»
Un homme l'accompagna hors la ville, lui indiqua le chemin, lui donna quelques conseils et le regarda partir. Au bout de quelques minutes, l'enfant boitant, son sac sur le dos, disparut derrière les arbres épais qui bordaient le chemin. Cette nuit-là fut terrible pour la pauvre malade. Elle souffrait de douleurs atroces qui lui arrachaient des crises épouvantables et lui donnaient le délire. Les femmes qui l'assistaient perdaient la tête. Sa maîtresse arrivait de temps à autre, toute déconcertée. On commença à craindre que, même si elle se décidait à se laisser opérer, le médecin qui devait venir le lendemain matin n'arrivât trop tard. Dans les moments où le délire cessait, on comprenait que son mal le plus terrible venait encore moins du corps que de la pensée, toujours tendue vers la famille éloignée. Anéantie, défaite, le visage méconnaissable, elle s'arrachait les cheveux avec désespoir en criant. mon Dieu, mourir si loin, mourir sans les revoir. Mes pauvres enfants, orphelins, et mon petit Marco qui est encore si jeune, lui si dévoué, si affectueux. Vous ne savez pas, madame, quel bon garçon il est. Je ne pouvais le détacher de mon cou lorsque je suis partie. Il sanglotait à faire peine. On eût dit qu'il comprenait qu'il ne devait plus revoir sa mère. Pauvre Marco, mon pauvre enfant. Oh, si j'étais morte alors, lorsque je leur disais adieu. Sans mère, pauvre petit, que fera-t-il? Il devra les mendier, lui, mon Marco, tendre la main. Oh, Dieu éternel, je ne veux pas mourir. Le médecin, appelez-le tout de suite, qu'il vienne, qu'il me déchire, mais qu'il me sauve la vie. Je veux guérir, je veux vivre, partir demain. Au secours !»
Les femmes qui la soignaient lui prenaient les mains et lui parlaient de Dieu et d'espérance. Et alors la pauvre malade retombait dans un abattement mortel, pleurait, les mains dans ses cheveux gris, gémissant comme un enfant.
« Oh, Gênes, ma ville natale, ma maison, toute cette mer! Oh, mon Marco, mon pauvre Marco, qui sait où il est à cette heure, mon pauvre enfant ?»
Il était minuit et son pauvre Marco, après avoir passé plusieurs heures sur le rebord d'un fossé, marchait alors à travers une forêt immense, ombragée d'arbres gigantesques, aux troncs énormes, semblables à des piliers de cathédrale qui entrelaçaient leurs cimes argentées par la lune. Vaguement, dans la demi-obscurité, Marco voyait des troncs de toutes les formes. Droits, inclinés, contournés, croisés, ayant l'aspect étrange et menaçant. Quelques arbres renversés comme des tours tombées se couvraient d'une végétation abondante et confuse, d'autres, serrés en groupe comme un faisceau de lances dont les pointes toucheraient le ciel, s'élevaient droits et superbes. Partout, enfin, une grandeur majestueuse, un désordre naturel d'une prodigieuse beauté, le spectacle le plus terrible et le plus grandiose que la végétation terrestre eût jamais offert au regard. Parfois, Marco était saisi de stupeur, mais aussitôt son cœur se raffermissait en s'élançant vers sa mère. Exténué, les pieds en sang, seul au milieu de cette forêt formidable où l'on ne voyait qu'à de longs intervalles de petites habitations humaines, au pied de ces grands arbres, elles semblaient des nids de fourmis. Marco, exténué, ne sentait pas la fatigue. Il était seul et n'avait pas peur. La grandeur de la forêt épanouissait son âme, le voisinage de sa mère lui donnait la force et l'assurance d'un homme. Les souvenirs de l'océan traversé, des désillusions, des douleurs souffertes et vaincues, des fatigues subies lui faisaient relever le front. Son sang génois, noble et fort, refluait à son cœur du nom de fier et hardi. Et une chose nouvelle survint à lui. Jusque-là, il n'avait pu évoquer qu'une image obscure de sa mère, image effacée un peu par les 2 années d'absence. Maintenant, cette image devenait claire et distincte. Il revoyait nettement son visage, comme depuis longtemps il ne l'avait vu. Il le revoyait près de lui, illuminé, frappant. Il revoyait les mouvements les plus subtils de ses yeux et de ses lèvres, ses gestes et ses attitudes. Poussé par ses souvenirs, Marco pressa le pas, une nouvelle tendresse croissait dans son cœur, faisant couler sur son visage des larmes douces, tranquilles, et, à travers les ténèbres, il prononçait les paroles qu'il allait bientôt murmurer à l'oreille de sa mère bien-aimée. « Me voici, mère chérie, me voici, je ne te laisserai plus. Nous retournerons ensemble chez nous, je serai toujours près de toi sur le bâtiment, et personne ne me détachera de toi, plus jamais, jamais !» Et Marco ne s'apercevait pas que, sur la cime des arbres gigantesques, les lueurs argentines de la lune s'éteignaient pour faire place aux blancheurs délicates de l'aube naissante. À 8 heures ce même matin, le médecin de Tucumán, un jeune Argentin, était déjà au lit de la malade, assisté d'un aide, tentant une dernière fois de la persuader à se faire opérer. Mais les instances du docteur et celles de ses maîtres étaient inutiles. La pauvre femme, se sentant très faible, n'avait plus foi dans l'opération. Elle était certaine de mourir entre les bras du chirurgien, après avoir souffert des douleurs plus atroces que celles qui devaient la tuer. Le docteur lui répétait « Mais le succès de l'opération est certain. Je vous sauverai la vie si vous avez un peu de courage. Si vous refusez, votre mort est sûre. » Parole perdue. « Non !» répondait la malade d'une voix étouffée.
J'ai encore assez de courage pour mourir, mais non pour souffrir inutilement. Merci, docteur. Laissez-moi mourir tranquille. »
Le médecin découragé n'insista plus. Alors la servante se tourna vers la maîtresse et lui fit ses dernières recommandations.
« Ma bonne maîtresse, dit-elle avec effort, vous enverrez mes effets et mes pauvres économies à ma famille par l'entremise du consul. J'espère que tous les miens sont en vie. Je sens dans mon cœur cette espérance. Vous me ferez la grâce d'écrire que j'ai toujours pensé à eux, toujours travaillé pour eux, pour mes enfants, et que ma seule douleur est de ne plus les revoir, que je suis morte avec courage, résignée, en les bénissant, et que je recommande à mon mari, à mon fils aimé, le plus petit, mon petit Marco, auquel j'ai pensé jusqu'au dernier moment. »
Puis, s'exaltant tout d'un coup, elle cria en joignant les mains.
« Oh, Marco, mon enfant, ma vie !»
Mais en tournant ses yeux en pleurs, elle vit que sa maîtresse n'était plus là. On était venu la demander furtivement. Elle chercha des yeux le seigneur Mekines, il avait disparu, il ne restait plus que les deux infirmières et l'aide-chirurgien. On entendait dans la pièce voisine un bruit de pas pressés, un murmure de voix rapide et bas, d'exclamations contenues. La malade fixa sur la porte ses yeux voilés, attendant. Quelques minutes après, elle vit apparaître le docteur. Il avait une expression étrange, puis le seigneur et la seigneure Mekines, eux aussi le visage troublé. Tous trois la regardaient avec une expression singulière, échangeant quelques mots à voix basse. Il sembla à la malade que le docteur disait à sa maîtresse « Mieux tout de suite ». Elle ne comprenait pas. « Josepha, dit la seigneure Mekines d'une voix tremblante, « j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Préparez votre cœur à une bonne nouvelle. » La malade la regarda attentivement. « Une nouvelle, continua la dame toujours plus agitée, qui vous fera éprouver une grande joie. » Les yeux de la servante se dilatèrent. « Préparez-vous, poursuivit la seigneure, à voir une personne que vous aimez beaucoup. » Josepha leva la tête par un mouvement énergique et commença à regarder tour à tour la porte et sa maîtresse avec des yeux enflammés. « Une personne, ajouta la seigneure, arrivée ici, à présent, d'une façon inattendue.
« Qui est-ce ? » demanda la femme d'une voix entrecoupée, comme celle d'une personne épouvantée.
Un instant après, elle jeta un grand cri. Assise sur son lit, elle restait immobile, les yeux démesurément ouverts, les mains à ses tempes comme devant une apparition surhumaine. Marco, déchiré et poudreux, était debout sur le seuil de la porte. Le docteur le retint par un bras. La femme cria trois fois.
« Dieu ! Dieu ! Mon Dieu !»
Marco s'élança. Elle lui tendit ses bras amaigris, le serrant sur son sein avec la fureur d'une tigresse, éclatant dans un rire violent, rompu de sanglots profonds, sans larmes, qui la firent retomber suffoquée sur le coussin. Mais elle se remit aussitôt, et folle de joie, en couvrant de baisers la tête de Marco.
« Comment es-tu ici ? » dit-elle. « Pourquoi ? Comme tu as grandi ! Qui t'a conduit ? Tu es venu seul ? Tu n'es pas malade ? C'est toi, Marco ! Ce n'est pas un songe ? Parle-moi ! »
Puis, changeant de ton tout à coup,
« Non, tais-toi, attends !»
Et se tournant vers le docteur précipitamment,
« Vite, docteur, je veux guérir, je suis prête, ne perdez pas un instant. Conduisez Marco dehors pour qu'il n'entende pas. Marco chéri, ce n'est rien, va, tu me raconteras tout. Encore un baiser, va, me voici, docteur !»
On emmena Marco. Le seigneur et la seigneure sortirent avec lui, le chirurgien et l'aide fermèrent la porte. Le seigneur Mekines tenta de mener Marco dans une chambre éloignée, mais ce fut impossible. Il semblait cloué au plancher.
« Qu'y a-t-il ? » demanda l'enfant. « Qu'est-ce que ma mère a ? Qu'est-ce qu'on lui fait ?»
L'ingénieur cherchait doucement à l'entraîner. « Je te le dirai, viens. Ta mère est malade, il faut lui faire une petite opération. Je t'expliquerai tout cela. Viens avec moi. »«
Non, je veux rester ici, » dit l'enfant. « Expliquez-moi cela ici. »
L'ingénieur tâchait de le rassurer en l'entraînant et l'enfant commençait à avoir peur et à trembler. Tout à coup, un cri aigu, comme le cri d'un blessé à mort, retentit dans toute la maison. L'enfant répondit par un cri désespéré.
Ma mère est morte !»
Le médecin parut sur le seuil et dit « Ta mère est sauvée !» L'enfant le regarda un moment, puis se jeta à ses genoux en sanglotant.
« Merci, merci, docteur !»
Mais le docteur le releva d'un geste en disant « Lève-toi, pauvre enfant héroïque, c'est toi qui as sauvé ta mère !» L'été. Mercredi 24. Marco, le génois, est l'avant-dernier petit héros avec lequel nous faisons connaissance cette année. Il n'en reste plus qu'un pour le mois de juin. Il n'y a plus que 2 examens mensuels, 26 jours de leçons, 6 jeudis et 5 dimanches. On sent déjà la fin de l'année scolaire qui s'approche. Les arbres du jardin, touffus et fleuris, forment une belle ombre sur les agrès de la gymnastique. Les écoliers ont leurs vêtements d'été. La sortie des classes est toute différente des mois précédents. Les chevelures qui descendaient sur les épaules n'existent plus, toutes les têtes sont tondues. On voit jambes et cous nus, chapeaux de paille de toutes les formes, avec des bouts de ruban qui descendent jusque dans le dos. Chemises et cravates de toutes couleurs. Les plus petits ont des cravates ou n'importe quoi de bleu ou de rouge à leurs vêtements. Fantaisie de mère, des plus riches aux plus pauvres, qui ont voulu les parer. Beaucoup viennent à l'école nu-tête, comme s'ils s'étaient sauvés de la maison. Quelques-uns portent le costume blanc de la gymnastique. Il y a un élève de la classe de Mademoiselle Delcati qui est vêtu de rouge des pieds à la tête, comme un homard cuit. Quelques-uns portent des costumes marins. Mais le plus beau, c'est le petit maçon qui est coiffé d'un énorme chapeau de paille sous lequel il ressemble à une bougie couverte de son abat-jour. C'est à mourir de rire de le voir faire le museau de lièvre sous les bords de ce chapeau-là. Coretti a ôté son béret en peau de chat et a mis à la place une vieille casquette de voyage en soie grise. Votini a une espèce de vêtement à l'écossaise très attifé. Cross y montre sa poitrine nue, précoce y disparaît dans une côte bleue de forgeron. Et Garofi, maintenant qu'il a dû abandonner son grand pardessus qui cachait sa marchandise, ses poches gonflées restent à découvert, laissant voir un tas d'objets d'où émergent des listes de loterie. On aperçoit des éventails faits avec des journaux, des tuyaux de roseaux, des traits pour lancer aux oiseaux, etc., etc. Les élèves arrivent le matin avec des bouquets pour leurs institutrices. Les institutrices aussi sont habillées de couleurs claires, excepté la religieuse qui est toujours en noir. La maîtresse à la plume rouge a le même chapeau et un nœud de ruban rose au cou, un peu froissé et sali par les caresses de ses petits écoliers qui la font rire et courir. C'est la saison des cerises, des papillons, de la musique en plein air et des promenades à la campagne. Beaucoup d'élèves de quatrième s'échappent déjà pour aller faire une pleine eau dans le fleuve. Tous aspirent aux vacances. Chaque jour, on sort de l'école plus impatient et plus content que le jour précédent. Ce qui me fait peine seulement, c'est de voir Garonne et en deuil et ma pauvre maîtresse de première, toujours plus faible, plus pâle et qui tousse toujours plus fort. Elle marche toute courbée maintenant et le salut qu'elle me fait est si triste. Poésie. Vendredi 26. Tu commences à comprendre la poésie de l'école, Henri. Mais l'école, à présent, tu ne la vois que de l'intérieur. Elle te paraîtra beaucoup plus belle et plus poétique dans 30 ans quand tu y retourneras accompagner tes fils et que tu la verras du dehors comme je la vois. En attendant la sortie, je me promène dans les rues désertes qui entourent l'édifice et je jette un regard aux fenêtres du rez-de-chaussée fermées seulement par des persiennes. D'une fenêtre, j'entends la voix d'une institutrice qui s'écrie « Oh, quel vilain jambage de thé ! Cela ne va pas, mon enfant ! Et que dira ton père ?» À la croisée voisine, la grosse voix d'un professeur dicte lentement « J'ai acheté 50 mètres d'étoffe à 4,50 francs le mètre. Je les revends. » Plus loin, la maîtresse à la plume rouge lit à haute voix Alors, Pierre Mica, la mèche allumée. De la classe à côté s'élève un murmure de voix enfantines qui me prouve que le professeur est sorti un moment. Je fais quelques pas et j'entends un enfant qui pleure. La voix de la maîtresse le gronde ou le console.
Des autres fenêtres s'échappent des fragments de poésie, des noms d'hommes illustres et bons, des maximes sur la vertu, le courage, l'amour de la patrie. Puis suivent des moments de silence où l'on dirait que l'école est vide et il semble impossible qu'elle contienne 700 enfants. On entend tout d'un trait, rompant le silence, des éclats de rire provoqués par la plaisanterie d'un professeur de bonne humeur. Les gens qui passent s'arrêtent pour écouter et tous jettent un regard de sympathie à cet édifice qui contient tant de jeunesse et tant d'espérance. On entend tout d'un coup un bruit sourd de livres et de cahiers resserrés, des piétinements, un bourdonnement se répand de classe en classe et de bas en haut, comme à l'annonce inattendue d'une bonne nouvelle. C'est le portier qui porte de classe en classe le mot sacramentel « Finis ». À ce bruit, une foule de femmes, d'hommes, de jeunes filles et de jeunes gens se bousculent aux portes, attendant leurs enfants, leurs frères, leurs petits-fils, tandis que sortent des classes les tout-petits qui viennent chercher leurs manteaux et leurs chapeaux. Enfin, les écoliers arrivent en longue file, battant des pieds, et les parents les accueillent par une pluie de demandes. « As-tu su ta leçon ? Combien t'a-t-on donné de devoirs ? Qu'avez-vous pour demain ? Quand a lieu l'examen mensuel ?» Les pauvres mères qui ne savent pas lire ouvrent tout de même les cahiers, regardent les problèmes et demandent les points. « 8 seulement ? 10 avec éloge ? 9 de leçons ?» Et elles s'inquiètent et se réjouissent, interrogent les maîtres, parlent de programmes et d'examens. « Comme c'est beau l'instruction ! Comme c'est noble ! Et quelle immense promesse elle est pour le monde !» Ton père. La sourde muette, dimanche 28. Je ne pouvais pas mieux finir le mois de mai que par la visite de ce matin. On sonne à la porte. J'entends la voix de mon père qui s'écrie sur un ton de surprise. « Eh, quoi, c'est vous, Georges ?» Georges, notre jardinier de Chieri, dont la famille est à présent à Condore. Il arrivait de Gênes, où il avait débarqué la veille, venant de Grèce, après y avoir travaillé 3 ans au chemin de fer. Georges portait un gros paquet entre les bras. Nous le trouvâmes un peu vieilli, mais toujours jovial et le visage animé. Mon père voulait le faire entrer, mais il s'y refusa et demanda de suite, avec une certaine anxiété. « Comment va ma famille ? Comment va ma petite Luigia ?»« Bien, je l'ai vue tout récemment, » répondit maman. Georges poussa un soupir de soulagement. « Oh, Dieu soit loué ! Je n'avais pas le courage de me présenter aux sourds-muets sans avoir des nouvelles de ma fillette. Permettez, je laisse mon paquet et je cours chercher ma Luigia. Il y a 3 ans que je ne l'ai vue, ma pauvre fille. 3 ans que je n'ai vu aucun des miens. » « Accompagne Georges, » me dit papa. « J'ai encore un mot à vous dire, excusez-moi, » fit le jardinier en s'arrêtant sur le palier. Mon père l'interrompit. « Et les affaires ? Elles ont bien marché, grâce à Dieu. Je rapporte quelques sous. Mais je voulais vous demander, monsieur, si ma pauvre petite sourde muette a fait quelques progrès. Je l'ai laissée dans l'état d'un petit animal, pauvre créature. » J'y crois très peu, moi, à ces institutions de sourds-muets. A-t-elle appris à faire les signes ? Ma femme m'écrivait, Luigia apprend à parler, elle fait des progrès. Mais je me disais, à part moi, cela ne m'avance guère qu'elle apprenne à parler par signes, du moment que je ne les comprends pas, ces signes. Cela est bon entre ces pauvres sourds-muets. Comment la trouvez-vous, ma Luigia ? Mon père sourit et répondit. « Je ne vous dis rien, vous la verrez vous-même. Allez, allez, ne perdez pas une minute de plus. » Nous sortîmes. L'institution des sourds-muets est voisine. Chemin faisant, le jardinier me parlait, tout attristé. « Ah, ma pauvre Gigia, venir au monde accablée de cette disgrâce. Dire que jamais je ne me suis entendu appeler papa par elle et qu'elle n'a jamais entendu que je la nommais ma fille. » puisqu'elle n'a jamais prononcé ni entendu une parole. Il est encore heureux qu'un bienfaiteur nous ait offert de la mettre à l'institution. Il a fallu attendre qu'elle eût atteint sa 8e année. Voilà 3 ans qu'elle y est. Elle va avoir 11 ans bientôt. Est-elle grandie ? Dites-moi un peu, monsieur Henri. Est-elle gaie ?
« vous allez voir !» lui répondis-je en pressant le pas.
« Mais où se trouve donc l'institution ? Ma femme a accompagné Luigia après mon départ, j'ignore où elle est. »
Nous arrivâmes tandis qu'il parlait et nous entrâmes dans le couloir. Un gardien vint au-devant de nous.
« Je suis le père de Luigia Voggi, » dit le jardinier.
« Je veux voir ma fille, vite, vite !»«
Les enfants sont en récréation, » répondit le gardien. « Je vais avertir la maîtresse. » Et il sortit. Le jardinier ne pouvait plus ni parler ni rester tranquille. Il regardait les tableaux pendus au mur sans les voir. La porte s'ouvrit. Une maîtresse vêtue de noir entra, tenant une fillette par la main. Père et fille se regardèrent un moment, puis se lancèrent dans les bras l'un de l'autre en jetant un cri. La fillette était vêtue d'une robe à petites raies blancs et rouges et d'un tablier gris. Elle est plus grande que moi. Elle pleurait en entourant le cou de son père de ses bras. Le jardinier s'éloigna, se mit à regarder sa fille des pieds à la tête, les lunettes sur les yeux, essoufflé comme s'il avait fait une grande course, et s'écria
« Jésus, a-t-elle grandi ? Comme elle est devenue gentille ! Oh, ma pauvre, ma chère Luigia, ma pauvre petite muette ! C'est vous, madame, qui êtes la maîtresse ? Dites donc à ma fille de faire quelques signes, j'apprendrai peu à peu à les connaître. Dites-lui qu'elle me fasse comprendre quelque chose. »
La maîtresse sourit et dit à voix basse à la fillette.
« Quel est ce monsieur qui est venu te voir ?»
Alors la fillette, avec une grosse voix étrange, celle d'un sauvage qui parlerait notre langue pour la première fois, mais prononçant avec clarté et tout en souriant, répondit «
« C'est mon père !»
Le jardinier recula, étonné, en criant comme un fou.
« Elle parle ! Est-ce possible ? Est-ce possible ? Elle parle ! Mais tu parles, ma fille, tu parles ! Dis-moi un peu !»
Il l'attira à lui et l'embrassa à trois reprises sur le front.
« Ce n'est donc pas par geste que parlent les sourds-muets, madame ? Ce n'est pas avec les doigts ? Qu'est-ce que c'est que cela ?»
« Non, monsieur Voggi, » répondit la maîtresse, « ce n'est pas avec les gestes qui est l'ancienne méthode. Ici, on enseigne par la nouvelle méthode, la méthode orale. Vous ne le saviez pas ?»«
Je n'en savais rien, » répondit le jardinier confondu.
« Voilà 3 ans que j'ai quitté l'Italie. On me l'aura écrit et je n'aurais pas saisi. J'ai la tête dure, moi. Oh, ma fille, tu me comprends donc ? Tu entends ma voix ? Réponds un peu. Tu m'entends ? Tu entends ce que je te dis ?»«
Mais non, mon brave homme, » dit la maîtresse, « elle n'entend pas la voix puisqu'elle est sourde, mais elle comprend ce que vous dites par le mouvement de vos lèvres. Elle n'entend ni ce que vous dites, ni ce qu'elle dit, elle prononce parce que nous lui avons enseigné, lettre par lettre, de quelle façon elle doit mouvoir les lèvres et la langue et quel effort elle doit faire à l'aide de la poitrine et de la gorge pour émettre un son. »
Le jardinier ne comprenait pas et restait bouche béante. Il n'y croyait pas encore.
« Dis-moi, Luigia, » demanda-t-il à sa fille en lui parlant à l'oreille, « es-tu contente que ton père soit revenu ?»
Il attendait impatiemment sa réponse. La fillette le regarda pensive mais ne répondit point. Son père était fort troublé. La maîtresse se mit à rire.
« Mon brave homme, » dit-elle, « Luigia ne vous répond pas parce qu'elle n'a pas vu les mouvements de vos lèvres. Vous lui avez parlé à l'oreille. Répétez-lui la demande en tenant votre visage bien en face du sien. »
Le père regarda en face la fillette et répéta.
« Es-tu contente que ton père soit de retour, qu'il ne s'en aille plus ?»
La fillette, qui avait regardé attentivement les lèvres de son père, répondit nettement.
« Oui !» « Je suis contente que tu sois revenu, que tu ne nous quittes plus jamais. »
Le jardinier l'embrassa avec impétuosité, puis, pour mieux se rendre compte du phénomène incompréhensible pour lui, il l'accabla de demandes.
« Comment s'appelle ta maman ?»«
Antonia. »
« Comment s'appelle ta petite sœur ?»
« Adélaïde. »
« Comment se nomme cette institution ? »
Des sourds-muets.
Combien font 2 fois 10 ?
20.
Pendant que nous pensions voir le jardinier ravi, tout à coup il se mit à pleurer. Mais c'était de joie.
« Voyons, dit la maîtresse, vous devez vous réjouir et non pleurer. Vous faites pleurer aussi votre fillette. Vous êtes donc satisfait ?»
Le jardinier saisit la main de la maîtresse et la baisa en disant
« Merci, merci, 100 fois merci, 1000 fois merci, chère dame. Pardonnez-moi si je ne sais pas m'exprimer autrement. »
« Mais Luigia ne parle pas seulement, dit la maîtresse. Elle écrit et sait compter. Elle connaît le nom de tous les objets usuels. Elle sait un peu d'histoire et de géographie. Elle est dans ce moment dans la classe normale. Quand elle aura suivi 2 classes encore, elle sera bien plus instruite. Elle sortira d'ici capable d'embrasser une profession. Nous avons déjà placé des sourds-muets dans des boutiques pour servir les clients et ils se tirent d'affaires comme les autres. »
Le jardinier demeura surpris encore une fois. Les idées se confondaient, il regarda sa fille en se grattant le front, il désirait une autre explication.
La maîtresse comprit, se tourna vers le gardien et dit
« Amenez une enfant de la classe préparatoire. »
Le gardien revint peu après avec une sourde muette de 8 à 9 ans, entrée depuis peu de jours à l'institution.
« Cette enfant, dit la maîtresse, est une de celles à qui nous enseignons les premiers éléments. Voici comment on s'y prend. Je veux lui faire dire « e ». Faites attention. »
La maîtresse ouvrit la bouche comme on l'ouvre pour prononcer la voyelle « e » et fit signe à l'enfant de l'ouvrir de la même manière.
L'enfant obéit. Alors la maîtresse lui fit signe qu'elle émit sa voix.
La fillette émit sa voix. Mais au lieu de « e », elle prononça « o ».«
Non, dit la maîtresse, ce n'est pas cela. »
Et prenant les 2 mains de l'écolière, elle s'en appliqua une sur le gosier, l'autre sur la poitrine, et répéta « e ».
L'enfant, ayant senti avec ses mains le mouvement du larynx et celui de la poitrine de la maîtresse, rouvrit la bouche et prononça très bien « e ».
De la même façon, la maîtresse lui fit dire « c'est » et D, tenant toujours les 2 petites mains sur sa poitrine et sur sa gorge.
« Avez-vous compris maintenant ? » demanda-t-elle.
Le jardinier avait compris, mais il semblait plus émerveillé que lorsqu'il ne comprenait pas.
« Vous enseignez à parler comme cela ? » demanda-t-il après un moment de réflexion en regardant la maîtresse. « Vous avez la patience d'enseigner à parler comme cela peu à peu à chaque élève, tous les jours ? Pendant des années, mais vous êtes des saintes, mais vous êtes des anges du paradis. Mais il n'existe pas au monde une récompense assez grande pour vous indemniser. Que puis-je dire ? Ah, laissez-moi un peu seule avec ma fillette, laissez-la moi 5 minutes. »
Et s'étant assise à l'écart, il commença à interroger la sourde muette, et celle-ci répondait, ce qui faisait rire le jardinier, dont les yeux brillaient de bonheur. Il battait joyeusement des mains ses genoux et regardait sa fille, hors de lui, dans le bonheur de l'écouter, comme si cette voix venait du ciel.
« Pourrais-je remercier le directeur ? » demanda-t-il à la maîtresse.
« Le directeur n'y est pas, mais il y a une autre personne que vous devriez remercier. Il est d'usage ici que les petites filles soient confiées à une compagne plus âgée qui leur tient lieu de sœur, de mère. » La vôtre est confiée à une sourde muette de 17 ans, fille d'un boulanger, qui est très bonne pour Luigia et l'aime beaucoup. Depuis 2 ans, c'est elle qui l'aide à s'habiller, qui la coiffe, qui lui apprend à coudre, arrange ses robes, lui tient compagnie.
Luigia, comment s'appelle ta maman de l'institution ?
Caterina Giordano, répondit la fillette en souriant. Puis elle ajouta « Très, très bonne !»
Le gardien, qui était sorti sur un signe de la maîtresse, revint presque aussitôt avec une sourde muette blonde, robuste, au visage ouvert, vêtue elle aussi de rouge et blanc et du tablier gris. La jeune fille s'arrêta sur le seuil et rougit, puis baissa la tête en souriant. Elle était grande comme une femme et semblait une enfant. La fille de Georges courut à elle, la prit par le bras et l'amena à son père en disant de sa grosse voix « Caterina Giordano !»«
Ah, la brave fille !» s'écria le jardinier en lui prenant la main. « Que Dieu la bénisse, qu'il lui accorde tous ses bienfaits, toutes ses grâces, qu'il la rende heureuse, elle et tous les siens. C'est un honnête ouvrier, un pauvre père de famille, qui le souhaite de tout cœur, mon enfant. »
La jeune fille caressait Luigia en tenant toujours son visage baissé. Quant au jardinier, il continuait à la regarder comme une madone.
« Vous pouvez emmener aujourd'hui votre fille, » dit la maîtresse.
« Je l'emmène à Condor et je la ramène demain. »
La fillette courut s'habiller.
« Demandez-moi un peu si je n'ai pas envie de l'emmener, » continua le jardinier, « depuis 3 ans que je ne l'avais vue, et maintenant elle parle. » Je la conduis d'abord par toute la ville de Turin pour la faire voir à mes amis afin qu'ils l'entendent parler. Ah, la belle journée! Voilà ce qui s'appelle une heureuse surprise. Viens à mon bras, fillette. »
Luigia, qui venait d'arriver avec un mantelet et un petit bonnet, donna le bras à son père.
Et merci à tous, dit le jardinier sur le seuil. Merci à tous de toute mon âme. Je reviendrai vous remercier encore.
Il demeura un instant pensif, puis se détachant brusquement de la fillette, il revint sur ses pas et fouillant d'une main fiévreuse dans son gilet, il cria.
« Eh bien, je ne suis qu'un pauvre diable, mais je veux laisser un louis d'or à l'institution, une belle pièce neuve. »
Il donna un grand coup sur la table et y jeta une pièce d'or.
« Non, non, brave homme, » dit la maîtresse tout émue, « reprenez votre argent. » « Je ne puis l'accepter. Reprenez-le. Cela ne me regarde pas. Vous reviendrez quand le directeur sera là. Mais il n'acceptera rien, soyez-en sûr. Vous avez assez travaillé pour gagner cela. Pauvre homme, on vous en sera reconnaissant tout de même. »
« Non, non, je laisse l'argent, » dit le jardinier entêté. « Et puis, on verra. »
Mais la maîtresse remit l'argent dans le gilet de Georges sans lui laisser le temps de repousser sa main. Il se résigna en baissant la tête, salua vivement la maîtresse et la jeune fille, et reprenant le bras de Luigi, il s'élança dehors en disant
« Viens, viens, ma fille, pauvre petite muette, mon trésor !»
Et la fillette s'écria de sa grosse voix
« Oh, quel beau soleil !»